déodorant à l'agonie, vous dit dans un dernier soupir « Je fais de mon mieux, mais je suis vraiment sur la faim. » Pas de panique, votre nouveau déodorant est déjà en route. Il arrive demain avec Prime. Produit du quotidien, livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Sous réserve du respect des heures limites de commande.
Vous écoutez Easy Classic sur francemusique.fr.
Thank you. The opera house, we're waiting for the curtain to arise with wonders for her eyes. We're feeling pretty gay, and well we may. Oh, Jimmy, look, I say, the band is tuning up, and soon we'll start to play. We whistle and we harmony time with the drum. We whistle and we harmony time with the drum. We're sin in the opera house, the opera house, the opera house. We'll wait for the curtain to arise, wonders for her eyes. A feeling of expectancy, a certain kind of ecstasy. Expectancy and ecstasy, expectancy and ecstasy.
Thank you. C'était les nuits de France Musique. Voici tout de suite la tribune des critiques de disques par Jérémy Rousseau. France Musique. La tribune des critiques de disques, Jérémy Rousseau.
Au programme cet après-midi, Schumann, les Davidsbündler Tänze. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la tribune des critiques de disques. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche après-midi avec cette plongée dans l'univers poétique, romantique, si personnel de Robert Schumann avec ses Davidsbündler Tänze, les danses des compagnons de David. On va dire quelles sont ces danses, quels sont ces compagnons de David. En fait, c'est tout l'univers très riche de Schumann avec ses personnages qu'on entend ici passer dans cette petite pièce, la 12e des 18 pièces, Mit Humor. Le terme « humor » revient très souvent dans les pièces de Schumann. On va discuter de tout ça et écouter quelques grandes versions pour que vous en gardiez peut-être une, j'espère, à la fin de l'émission, en compagnie de trois critiques et pianistes. Un pianiste qui vient régulièrement à la tribune, qui joue Schumann, mais pas seulement, qui est Jonas Vito. Bonjour Jonas.
Bonjour Jérémy.
À vos côtés, Mélissa Kong, critique à Diapason, pianiste elle aussi, professeure de piano.
Oui.
Bonjour, bonjour Mélissa, bonjour Negar Aheri.
Bonjour Jérémy.
Pianiste également,
oui.
Avocate, professeure de piano et pianiste. Vous avez joué ou pas ces pièces?
Non. Je ne les ai pas jouées.
Mais vous avez joué Schumann.
Mais j'ai joué Schumann, bon.
Oui. On y revient dans quelques instants. Le temps de vous rappeler que la semaine dernière, c'était la Sinfonietta de Janáček qui était au programme, avec l'arrivée en tête, sans surprise, de la version historique de Karel Anscherl et de la Philharmonie tchèque. C'est la version pour laquelle vous avez voté, à près de 46% des voix. Et j'ai reçu ce mail de François-Xavier Bonnet, de la Chapelle des Marais en Loire-Atlantique. J'ai découvert cette œuvre de Janáček et j'en reste bouleversé. Les sonorités étranges semblent nous montrer des meutes d'animaux sauvages, captivants et étranges, qui courent et arpentent des vallons. On les perd de vue derrière une forêt, couvrant une montagne. Tout d'un coup, la vue d'un monastère apporte une douceur merveilleuse, une accalmie vite interrompue, car à nouveau apparaissent des signes inquiétants, apportés par la nature, affolés par la venue de ces meutes. Finalement, il semble qu'on se soit trompé, que notre imagination nous joue des tours. La meute n'était que le déplacement des brumes de chaleur, des effets visuels de notre étourdissement. C'est presque schumannien, hein, cet univers, voir ces visions comme ça de personnages qui s'animent. Ça, c'était à l'écoute de la Sinfonie italienne tchèque, qui vaut à notre auditeur de gagner le disque du trio Bush, qui interprète Dvorak. C'est un coffret de 4 CD paru chez Alpha. Le disque France Musique de la semaine dernière. Et cette semaine, c'est un disque Schumann, emmené par Pierre Fouchéneret, Victor-Julien Laferrière, Lise Berthaud, Théo Fouchéneret. C'est paru chez Autir. Voilà. Et je signale, j'ai oublié une chose, oui, bien sûr, la semaine prochaine, vous savez, comme chaque saison sur France Musique, vous avez la tribune des auditeurs, qui s'intéressera cette année au concerto pour violon de Beethoven. 4 auditeurs ont été retenus. Elle s'appelle Ilonka Laurent. Elle vient d'Ardèche. Amina Terrou, elle vient de Marc-en-Barœul. Esteban Boutemi de Marseille. Éric Attenot du Kremlin-Bicêtre. Voilà, tous les 4 débattront dimanche prochain autour du concerto pour violon de Beethoven. C'est Davidsbündler Tänze de Schumann, précisément opus 6 dans le catalogue de Robert Schumann, composé en 1837. Une pièce qui ne sont pas des danses, qui sont des miniatures. Les pièces sont très courtes, elles varient des 20-30 secondes à une pièce un peu plus développée, qui sera d'ailleurs une des pièces qu'on écoutera, qui dure à peu près 3 minutes. Ce sont pas des danses, ce sont des maximes de la vie de Schumann, qui reprennent ses conceptions esthétiques, poétiques, qui voient dialoguer ces fameux personnages qu'on trouve dans d'autres œuvres, les fameux Florestan et Eusebius, et puis d'autres personnages ici qui se cachent, peut-être l'ombre de Clara, la bien-aimée Clara, peut-être l'ombre du père de Clara. Et puis, les danses des Compagnons de David. Pourquoi les Compagnons de David ? Parce que c'est une confrérie imaginaire inventée par Schumann qui, après avoir créé cette Neue Zeitschrift für Musik, cette nouvelle revue musicale, imaginait défendre des conceptions esthétiques et régler un petit peu ses comptes avec les compositeurs qu'il aimait et qu'il aimait moins. Voilà. Donc en fait, c'est une confrérie imaginaire à laquelle il a dédié ses danses qui le révèlent extraordinairement lui-même. Est-ce que j'ai bien résumé, Jonas Vito, ses danses des Compagnons de David ?
Oui, très très bien, merci
Jérémy. Est-ce qu'il faut rajouter d'autres choses sur cet univers schumannien pour les caractériser ?
Non, je ne crois pas. En effet, c'est une pièce qui est en même temps une œuvre et un programme esthétique, comme vous l'avez dit, un peu comme le poème Correspondance de Baudelaire. Il y a en effet cette dimension qui veut... apporter quelque chose de nouveau sur le plan esthétique et se référer à ces personnages essentiels, Florestan, Eusebius, qui caractérisent beaucoup d'œuvres de Schumann et pas seulement celle-là.
Ouais, ouais. Negar Airi, qu'est-ce qui vous, en général, vous touche dans la musique de Schumann ?
Ah, c'est très compliqué parce que la musique de Schumann me touche tant que j'ai du mal à l'écouter. Assez curieusement.
Vous allez l'écouter et en parler.
Le fait d'en parler, me protège de la folie de Schumann, justement. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. Mais ça fait longtemps que je n'écoute plus passivement, entre guillemets, la musique de Schumann, parce que ces personnages me happent tant que ça me coupe presque mon oxygène. C'est dire à quel point sa musique est forte et puissante et efficace.
Mélissa Combe, qu'est-ce qui caractérise pour vous ce recueil ?
Je crois qu'il faut surtout souligner le lien que Schumann avait envers le monde littéraire, en fait, de son époque. Et là, ce David Bündler était au départ, je crois, une nouvelle que Schumann voulait créer. Alors, Schumann qui voulait être écrivain pendant son adolescence jusqu'à ce qu'il décide de devenir compositeur parce qu'il trouve que la musique avait une puissance encore plus suprême que les mots. Et dont son père, je crois, aussi était écrivain. Et donc, cette idée des Compagnons de David commençait par un petit fragment d'une nouvelle et qui s'imprégnait justement dans son monde musical. Et donc, on a cet espace de mélange entre tout ce qui est littéraire, ce qui est musical. Et on a tout à fait ces formes littéraires qu'on va retrouver dans Enfant Musique, ces aphorismes de Jean-Paul, de Novalis, qu'on va trouver ici. Donc, c'est extrêmement original. Et bon, je crois qu'on va vraiment se régaler.
La question à laquelle vous n'avez pas échappé, une version, deux versions que vous adorez.
Alors, j'en ai trois.
Trois,
même.
Ah.
Même. Ouais. Très différentes d'ailleurs, mais qui sont tous touchantes, comme Néga avait soulevé. Je crois que c'est ce qu'on essaie dans la musique de Schumann, c'est de toucher de manière extrêmement sincère. Donc, il y a la version de Catherine Collard, celle de Éric Lesage et celle de Chu Xiaomei.
Tiens. Eh bien, on va s'y plonger, tous les trois, hein, si vous êtes prêts. Je rappelle à nos auditeurs que les versions s'affichent sur l'écran pour lesquelles vous pouvez voter et nous envoyer vos commentaires. On va entendre les deux premières pièces, qui seront le premier extrait, Lebhaft et Inish. Voici tout de suite la version A de ces deux premières pièces, des danses, des Compagnons de David, les Davidsbündler Tänze de Robert Schumann. Thank you. Voilà, c'était la version A des deux premières pièces de ces chants des compagnons, de ces danses des compagnons de David, Lebhaft, vivant, animé plutôt, et puis Inish à l'instant, plutôt intime, disons, les deux versants, les deux aspects de cette personnalité, de ce style Robert Schumann, de son univers. Negar Haeri, qu'avez-vous pensé de ce que vous venez d'entendre ?
J'ai beaucoup aimé cette première version. Je trouve qu'il y a une délicatesse dans la manière d'amener ces mélodies. C'est comme si je visualisais des personnages ou des interrogations, enfin, des personnages en forme de questions, quoi. Y a comme une mise en scène. Enfin, je rentre tout de suite dans le monde, justement, de Schumann. Pareil, la deuxième pièce, je la trouve forte tout à coup. C'est comme si le temps était suspendu. Il y a une véritable douleur, en fait, qui ressort de ces notes. J'ai beaucoup aimé cette première version.
Bon, ça commence bien. Est-ce que vous avez la même impression, Jonas Vito, à l'écoute de cette version A ?
Je suis globalement partagé. Il y a des très belles choses. Le son est absolument magnifique. Dans la première pièce, je suis, plus réticent à l'idée qu'il y a des changements de tempo qui me paraissent trop fréquents. Par exemple, la petite introduction se termine par un gros ralenti qui n'est pas indiqué. Et puis, la pièce commence avec un piano, après cette introduction, qui me paraît exagérément lent, avec une suspension sur la podiature. Alors, c'est vrai que Schumann indique Eusebius et Florestan pour cette première pièce. Donc, il y a les deux personnalités. Donc, l'option de ce pianiste, c'est vraiment d'effectuer un contraste radical entre les passages énergiques correspondant à Florestan et les passages rêveurs correspondant à Eusebius. Dans ce sens-là, il le fait plutôt bien, mais je pense que ça se fait un peu au détriment de la pièce, l'unité de la pièce.
De l'unité, oui.
Pour ce qui est de la deuxième, je l'ai trouvée très belle. Je trouve qu'à chaque reprise aussi, il y a toujours des petites choses qui varient. Donc, la pièce Innig, donc intérieure, c'est un des termes que Schumann utilise le plus souvent. Elle est vraiment bien retranscrite et le passage en majeur qui s'illumine là comme un espoir d'épouser peut-être Clara un jour, ça m'a beaucoup touché. Je trouvais ça très beau. Voilà. Et puis l'art de toujours rejouer différemment à chaque reprise. Donc voilà, la deuxième pièce m'a énormément plu.
Plus que la première.
Oui.
Mélissa Kong, est-ce que votre impression, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on exagère un peu ou
oui, je suis d'accord avec Jonas. C'est vrai qu'on rentre tout de suite dans ce univers où la dualité joue beaucoup, mais peut-être jusqu'au point où on commence à avoir un discours qui change un peu trop alors qu'on n'est qu'au début de l'œuvre. Ce que je trouve peut-être un peu dommage, c'est qu'on prépare trop la deuxième pièce qui devrait nous transporter dans un autre monde, parce que le pianiste a décidé déjà d'interpréter beaucoup de la première, avec beaucoup de rêveries, beaucoup de rubato. Déjà, mettre en place ces sonorités, peut-être qui serait encore plus surprenant s'il avait réservé ça pour la deuxième danse. Donc je crois, comme Jonas avait souligné, il y avait cette volonté de chercher la dualité tout de suite. Évidemment, c'est une pièce qui est signée Florestan et Eusebius. Et d'ailleurs, je crois que toute l'œuvre est signée Florestan
oui,
et Eusebius.
Oui,
c'est,
et d'ailleurs,
c'est le côté rigolo.
C'est ça. Je crois que dans l'édition de 1838, Schumann indiquait « pièce caractéristique composée par Florestan et Eusebius ».
C'est ça, voilà. C'est ça.
Donc l'année suivant, la composition.
Oui, tout à fait. Et dans sa deuxième édition, il enlève.
Il enlève, c'est ça.
Voilà, ouais. Comme il fait beaucoup, il se censure, voilà.
Et donc peut-être, pardon, Maïssa, pour préciser, après je te laisse reprendre. À la fin de chaque pièce, donc, Schumann indique soit Eusebius, soit Florestan, soit Florestan et Eusebius, comme c'est le cas pour cette première pièce. Pardon,
oui, tout à fait. Donc, il attribue chaque pièce. Et donc, on peut déjà construire une manière d'interprétation par comment il va signer ses pièces. Est-ce que c'est Florestan, celui qui est impétueux, ou est-ce que c'est Eusebius qui est beaucoup plus rêveur? Donc, je crois de chercher tout de suite cette dualité peut-être un peu réducteur. Mais je dois souligner quand même la sonorité magnifique et que tout ait été vraiment pensé, réfléchi. C'est une manière assez originale, assez captivante. On va voir comment il se place voilà, dans cette...
Et c'est la version A, toujours, on le rappelle. Hein, donc elle commence. Voilà. Oui. On passe à la suivante. Voici la version B.
Thank you.
Voilà pour les deux premières pièces des danses des compagnons de David de Schumann dans la version B. Jonas Vito, j'ai l'impression que dans la première pièce, les contrastes sont... Enfin, on assume davantage Florestan que Zébius, non ?
Bah, en tout cas, moi je trouve qu'il y a un bon équilibre entre les deux, c'est-à-dire que le caractère Lebhaft se construit sur la pièce globale. Oui. C'est-à-dire qu'en effet, il y a peut-être plus de continuum entre Zébius et Florestan, mais je trouve que ça aboutit à finalement une plus grande unité. Et moi, cette version me plaît beaucoup, et je trouve qu'elle se contente de respecter le texte d'une manière un peu plus fidèle, c'est-à-dire il y a peut-être un peu moins de ritardando que dans la version précédente, mais voilà, je trouve que c'est qu'on a aussi malgré tout cette fantaisie qui se dégage de son jeu. Il y a quand même quelque chose de très libre. C'est pas non plus une version austère, mais voilà, je pense que ça contribue à ce qu'on ait le sentiment d'unité. Et la deuxième pièce, m'a aussi beaucoup touché. Je la trouve extrêmement sensible, avec une attention particulière pour les appoggiatures, une grande fantaisie aussi lors de la reprise, où on a légèrement plus de suspension sur le troisième timbre, sur le sol, qui donne encore quelque chose de plus incertain la deuxième fois. Et puis peut-être une plus grande différence de niveau sonore entre la mélodie et l'accompagnement, ce qui renforce peut-être le sentiment d'intimité. Innig, ça veut dire intime, intérieur. Donc, on a peut-être plus, avec cette façon de jouer, ce sentiment d'intériorité.
Oui. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette version, vous, Mélissa Kong, cette version B ?
Surtout le naturel de l'interprète. Je trouve qu'il y a une simplicité qui est tellement touchante et attachante. Et en même temps, on arrive à dire beaucoup de choses. Et ce que je trouve assez exceptionnel, c'est la manière de colorer et de caractériser les différentes tonalités, des différents motifs. Et il y en a plein, et on sait que les tonalités pour Schumann étaient extrêmement importantes. Évidemment, il associe ça beaucoup à Clara. Donc, chaque note a presque un sens poétique, on va dire. Et je trouve que cet interprète a réussi vraiment à sortir toutes les nuances dans la musique de Schumann sans réduire à une sorte de regard très binaire, mais parler de la candeur, la mélancolie, la vitalité, tout ça, sans non plus déformer la partition. Donc j'aime beaucoup les jeux de résonance aussi, les échos qu'il va faire produire par le contrepoint. Et la construction aussi de la deuxième pièce est assez, assez remarquable, assez touchante. On sait que la deuxième pièce va revenir à la fin. Et la manière, il va terminer ça...
À la fin de l'œuvre.
À la fin de l'œuvre, exactement. Ouais. Et cette note de résignation qu'il va mettre... on verra comment il va faire, mais je trouve que c'est très pensé aussi. C'est très réfléchi de manière très naturelle.
Ouais. Je me permets de rebondir si c'est possible, Jérémy. Je suis tout à fait d'accord. En effet, je trouve que la façon dont il joue la fin de cette deuxième pièce... annonce réellement la réutilisation du motif à la toute fin de l'œuvre. Je trouve que c'est frappant et on sent qu'il y a une conception sur le très long terme. Ouais,
Vous avez été sensible à cette version des Garaïri.
Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a quelque chose de vraiment schumannien, je trouve, dans ce jeu-là. Et puis, Mélissa a raison. Alors, simplicité et facilité aussi. Tout semble simple sous les doigts de cet ou ce pianiste. Et cette deuxième pièce est très belle. C'est vrai qu'il y a une espèce de hiérarchie dans le son. On a l'impression qu'il y a plusieurs étages. Et c'est vrai que ça autorise, ça permet de rentrer dans une forme de confidence qui est, pareil, tout à fait schumannienne et qui est très douloureuse, en fait. Voilà. Moi, je ressens la douleur que je ressens quand j'entends Schumann. Quoi.
Bien. Parfait pour cette version B. Voici la troisième, la C. Thank you. Voilà pour la version C, un peu plus courte que la précédente. Ce Inish, j'ai l'impression, Mélissa Kong ne fait pas toutes les reprises, non?
Non, mais je crois que ça s'intègre justement dans ce discours qui marche aussi par la simplicité.
Ouais.
Là, on a une recherche de quelque chose assez... une droiture, on va dire, qui est peut-être surprenante dans Schumann. Je trouve ça marche très très bien ici. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de sincérité. Et la première pièce nous met tout à fait dans la danse.
Alors, c'est très dansant.
Oui, c'est très dansant. Donc il n'y a pas cette recherche peut-être de choses cachées ou d'ambiguïté. Mais pourquoi pas? Moi, j'ai beaucoup aimé. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'éloquence de l'interprète. La prise de son est peut-être un peu moins valorisante par rapport à la version B,
ouais.
Mais on entend ce toucher lumineux, il y a une noblesse de son, une noblesse de discours. On pense, je ne sais pas, à Cortot, en tout cas dans cette lignée-là où c'est très simple. Il y a une manière un peu directe à le dire, mais chaque chose est dit avec beaucoup d'éloquence. C'est ce qui m'avait marqué le plus dans cette version.
Je n'ai pas précisé au début de l'émission, mais je peux le dire que ça a rarement été au programme de la Tribune, hein, cette œuvre de Schumann. J'ai retrouvé une émission d'il y a 1998 avec une version qui s'était un peu détachée des autres et qui est peut-être dans la sélection cet après-midi. Voilà. J'en dis pas plus. Négar, cette version C.
Cette version, elle m'a un tout petit peu moins plu. Alors, elle est très, très épurée. Peut-être un jeu de pédale aussi qui est plus léger. Je trouve le son plus dur, un tout petit peu moins élégant que les deux précédentes versions. On a, je ne sais pas, comme du note à note. Là où le pianiste m'a moins emporté dans cette ambiance de rêve qui est si propre à Schumann.
Oui. Enfin, il assume le côté, la partie dansée. Il prend au pied de la lettre la danse qui donne son nom à l'œuvre, en tout cas pour la première pièce.
Oui,
qu'en pensez-vous, Jonas Vito?
En effet, c'est une version plus terrienne, plus dansante, plus proche du Lendler. Moi, j'ai bien aimé. Je trouvais que par rapport à la version précédente, il y avait peut-être un peu moins de respect du texte, que, par exemple des diminuendo qui sont remplacés par des crescendo, des échos qui sont remplacés par des insistances, enfin voilà, des petites libertés comme ça, peut-être moins fidèles que la version précédente, mais le caractère général m'a beaucoup plu, je le trouvais assez juste. Pour ce qui est de la partie centrale de la pièce, de la première pièce, on a du coup aussi quelque chose qui ne rentre pas dans l'inquiétude, parce qu'on reste dans la danse, on reste dans quelque chose avec très peu de pédales. On n'a pas cette petite angoisse latente qui arrive déjà dans cette première pièce. Là, il assume la gaieté de A à Z, en quelque sorte. Pour ce qui est de la deuxième pièce, c'est vrai que moi, j'aime bien cette droiture, cette simplicité, mais je trouve qu'elle tourne presque au manque de profondeur. Et je trouve qu'on n'a pas peut-être les recoins de l'âme schumannienne dans cette manière de jouer. L'intimité cachée, finalement, n'est presque plus là. Et le fait de ne pas mettre de pédale, de ne pas du tout nimber dans cette pièce-là, contribue aussi à ce qu'on n'ait pas ce sentiment d'intimité, de rêve.
Que vous aviez apprécié dans la précédente, dans la B, plus que dans celle-ci.
Tout à fait.
L'impression. Bien. Voici la quatrième version, la D.